Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur d'être aujourd'hui avec Arman Mustafayev, ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, ainsi qu'auprès du Saint-Siège. Excellence, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à ces nombreuses questions que l'on se pose, notamment en ce moment sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bonjour, bonjour Excellence.
Bonjour Yannick, je vous remercie pour cet intérêt pour le sujet des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur les actualités de notre région. C'est très important que les médias français s'intéressent à tel sujet. Merci beaucoup.
Merci. Alors, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment scellé un accord de sécurité énergétique entre l'Europe et puis l'Azerbaïdjan, qui a été, je rappelle, quand même l'un des premiers pays à soutenir l'Ukraine. Quel est cet accord? Est-ce que grâce à vous, on va avoir un peu moins froid cet hiver?
C'est une visite importante de la présidente de la Commission européenne à Bakou. Le mémorandum des intentions, comme on dit, c'est le nom de ce document, était signé entre les deux côtés, entre les deux parties. L'Union européenne considère l'Azerbaïdjan comme un partenaire fiable, stable et important pour l'approvisionnement de ressources énergétiques à le marché européen. Jusqu'à maintenant, l'Azerbaïdjan a bien montré son position forte. Son position de le fournisseur fiable de gaz naturel. Je vous donne quelques chiffres. Pour ces huit mois de cette année, début janvier jusqu'à septembre, Azerbaïdjan a exporté vers le marché européen plus de 14 milliards mètres cubes de gaz naturel. La majorité de ce volume dont on est exporté vers l'Europe, plutôt c'est l'Italie, 7,3 milliards. Ensuite, c'est la Turquie et aussi la Géorgie. Donc, dans l'Union européenne, dans le continent européen, c'est plutôt les pays comme l'Italie, la Grèce et la Bulgarie qui sont consommateurs de notre gaz naturel. C'est le premier article de cet accord qui a été signé à Bakou. Nous avons accordé avec Madame Ursula von der Leyen de augmenter deux fois les volumes de gaz exportés vers le marché européen, c'est-à-dire de 14 vers 20 milliards mètres cubes de gaz. C'est-à-dire, c'est un arrangement très important. L'Union européenne nous considère comme un fournisseur important, mais il s'agit non seulement de volumes de gaz. Vous savez que avec la construction de corridors gaziers du Sud, par laquelle nous exportons, nous fournissons le gaz naturel vers l'Europe, Azerbaïdjan a aussi beaucoup soutenu les économies européennes et investi beaucoup dans le développement des infrastructures de ces pays. Par exemple, les compagnies italiennes, pendant la mise en œuvre de ce projet, le projet de corridor gazier du Sud, ils se sont vus attribuer des contrats d'une valeur de 8 milliards d'euros. À Albanie, les sociétés, les compagnies de l'Albanie, ils ont remporté le contrat de valeur de 2 milliards d'euros. Et la Grèce, 1,5 milliard. C'est-à-dire, c'est une contribution non seulement énergétique, mais aussi économique. C'est-à-dire, grâce à à notre rôle de fournisseur important de gaz naturel, non seulement le secteur de gaz, mais aussi le secteur économique développe dans ce pays.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Azerbaïdjan est en train de se rapprocher de plus en plus de l'Europe?
Pendant cette visite, nous avons accordé d'élargir la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Il s'agit aussi de développer notre partenariat dans le secteur logistique, de transport. Et par exemple, l'Union européenne va nous soutenir dans la reconstruction de port de Bakou, parce que c'est important de se lier par le biais de l'Azerbaïdjan avec l'Asie centrale. Donc l'Azerbaïdjan joue ici le rôle de pont, de connexion entre l'Europe et l'Asie centrale. C'est un rôle stratégique de notre pays et l'Azerbaïdjan est prêt à jouer ce rôle et à contribuer d'élargir les relations économiques et d'investissement entre l'Asie centrale, les pays d'Asie centrale et l'Union européenne. Ensuite, donc, dans ce contexte, nous continuons notre travail avec l'Union européenne sur l'accord stratégique de partenariat bilatéral entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Et je pense que dans les mois prochains, cet accord sera signé entre les deux côtés.
Alors j'aimerais bien que, grâce à vous, on y voit un peu plus clair sur ce qu'est l'Azerbaïdjan sur le plan géopolitique. Voilà quelques idées reçues, monsieur l'ambassadeur. On sait que l'Azerbaïdjan, ça, c'est indéniable, est proche de la Turquie. On vous dit aussi proche d'Israël. Bon, vous confirmez que les relations sont bonnes avec l'Europe. On sait qu'elles sont plutôt bonnes avec les États-Unis. On dit, j'entends, que c'est plus difficile avec l'Iran ou la Russie. Alors, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu d'ordre là? Voilà. Comment est-ce qu'on peut situer l'Azerbaïdjan sur le plan géopolitique?
Je pense que vous avez bien montré à vos audiences, à votre audience, le rôle de notre pays comme le passerelle, comme le carrefour géopolitique dans cette région qui lie la région de l'Asie centrale avec l'Europe, qui est entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Donc nous sommes dans ce triangle géopolitique très important et l'Azerbaïdjan essaie de jouer le rôle de pays d'équilibre, des pays de balance. Nous avons une relation équilibrée et balancée avec tous les pays de cette région. Nous avons lancé cette initiative 3 plus 3, c'est-à-dire trois pays de la région du Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, et trois pays de voisinage, la Russie, la Turquie et l'Iran. C'est-à-dire créer cette formule 3 plus 3, cette région, créer ces relations de coopération entre ces six pays de cette région. Donc ça montre bien que nous sommes vraiment au centre de cette région, nous sommes au centre géopolitique et nous essayons de jouer ce rôle de balance, de coopération et d'apporter dans cette région donc, la stabilité, la sécurité et le développement.
Alors, l'événement, c'est cette guerre qui a repris entre l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan. Les commentateurs accusent l'Azerbaïdjan en étant à l'origine des hostilités, ce que vous démentez. Quelle est votre version ?
Vous savez, Yannick, cette phrase célèbre de théoricienne militaire prussienne von Clausewitz, qui disait que la guerre, c'est une continuation de la politique, mais par d'autres moyens. Donc ici, c'est la même chose. Donc cette provocation qui était faite dans la nuit de 12 au 13 septembre, c'était aussi, donc, je peux le dire, la continuation de la politique arménienne, mais par d'autres moyens. Pourquoi je dis que c'est une continuation de la politique arménienne? Parce que depuis la fin de la guerre de 44 jours, qui était terminée par la déclaration de 10 novembre 2020, nous avons signé cette déclaration, mais l'Arménie toujours résiste de mettre en œuvre les dispositions principales de ce document. D'abord, il s'agit de déménage. Jusqu'à maintenant, l'Arménie non nous a donné donc les cartes, les véritables cartes des chambres des mines.
Des mines donc, pour le déminage, oui.
Oui, parce que imaginez que après 2 ans de la fin de cette guerre, nous sommes aujourd'hui en septembre 2022, seulement 5% de la zone minée. Nous avons déminé seulement 5% de cette zone qui était libérée donc après cette guerre. 5% donc de zones étaient déminées. C'est-à-dire, nous avons déjà perdu 240 citoyens azerbaïdjanais qui se sont exposés sur les mines posées par l'Arménie. Donc, c'est le premier article de cette déclaration qui n'était pas mis en œuvre par le côté arménien. Ensuite, l'Arménie a signé cette déclaration et a promis de retirer ses forces, ses formations militaires illégales de la zone, ancienne zone occupée. Bien sûr, la majorité des forces armées ont quitté cette région de libérée, mais il y a quand même les formations illégales. 200, 300 ou 400 militaires arméniens qui sont toujours dans la zone de Karabakh, de l'Azerbaïdjan. Donc, ensuite, également, et malgré l'accord qui a été conclu donc, par cette déclaration, l'armée toujours résiste d'ouvrir les voies de communication de transport entre les deux pays. Bien que M. Pachinian, le Premier ministre, a promis et a signé cette déclaration, et les dispositions de ce document disent que l'Arménie doit, les deux côtés, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, doivent ouvrir toutes les voies de transport entre les deux pays. Donc, cette disposition n'était pas respectée. Et finalement, donc, la disposition très importante, et à mon avis, c'est plus important, l'Arménie, jusqu'à maintenant, résiste et refuse de lancer, de commencer le dialogue avec l'Azerbaïdjan sur la délimitation des frontières d'État entre les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et la préparation du traité de paix. Nous avons proposé aux Arméniens les principes de base, le respect réciproque de la souveraineté de l'un de l'autre, l'intégrité territoriale, inviolabilité des frontières d'État, délimitation, établissement des relations diplomatiques, relations normales, économiques, culturelles entre les deux pays. Jusqu'à maintenant, l'Arménie résiste de lancer, de commencer le dialogue avec l'Azerbaïdjan sur tous ces sujets. C'est clair, après cette explication, que qui est intéressé à la paix, à la sécurité, et qui n'est pas intéressé dans la résolution pacifique de tous ces sujets.
Dans la résolution de ce conflit, devait y avoir ce que l'on appelle le fameux groupe de Minsk, avec la France, qui est partie prenante de ce groupe de Minsk. Où en est-on ? Pourquoi ça fait des années que ça dure, ce groupe entre les États-Unis, la Russie et la France, qui était censé trouver une solution, qui n'a pas trouvé de solution, puisque cet accord, ce traité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été fait sous l'égide de la Russie. Pourquoi l'Azerbaïdjan ne reconnaît pas ce groupe de Minsk maintenant ?
Merci Yannick pour cette question. C'est très important pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre région après la guerre, après la guerre de 44 jours. D'abord, notre position sur la question du groupe de Minsk et de l'ancien conflit est très claire et précise. À notre avis, le conflit a été résolu parce que sa principale cause a été éliminée. Et les principales dispositions des résolutions du Conseil de sécurité, et vous savez bien que dans l'année 1943, quatre résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées. Donc, les principales dispositions, articles de ces résolutions ont été réalisées. C'est-à-dire, les sept districts azerbaïdjanais anciennement occupés par les forces armées arméniennes ont été libérés. Et je pense que c'est-à-dire il n'y a pas les causes, la cause principale a été éliminée. Mmh. Et c'est-à-dire le conflit est résolu.
C'est-à-dire l'occupation de cette zone qui appartient à l'Azerbaïdjan historique et le retrait des troupes arméniennes. C'était ça la cause du conflit.
Donc, la cause du conflit et les conséquences du conflit ont été éliminées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit aujourd'hui. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle ordre régionale qui existe aujourd'hui après la guerre de 44 jours, lorsque le conflit est déjà résolu, nous ne voyons pas la nécessité de groupe de Minsk. Encore, je le répète, nous ne voyons pas la nécessité de groupe de Minsk. Parce que le mandat du groupe de Minsk était quoi ? Le mandat du groupe de Minsk était de résoudre le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par les moyens non militaires, par les moyens, c'était ça le mandat. Donc, mais cela ne s'est pas produit parce que le conflit était résolu par la force, et il était résolu militairement, sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui, cet article de la Charte de Nations Unies, nous donne droit naturel de défense légitime. Donc nous avons utilisé ce droit naturel de défense légitime et donc par conséquent pas besoin de groupe de Minsk. Comme dit notre président récemment, nous, il a déclaré en Azerbaïdjan, nous ne disons pas à groupe de Minsk merci et au revoir. Nous lui disons justement au revoir. C'est ça notre position aujourd'hui.
Donc cette affaire du groupe de Minsk, comme on dirait en français, c'est caduque. Alors maintenant, quel est le rôle, quel peut être le rôle de la France dans ce processus de normalisation ? On voit bien que les médias français, les politiques français sont très engagés auprès de l'Arménie. Est-ce que la France peut jouer un rôle de normalisation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?
C'est évident, oui. La France pourrait jouer le rôle important dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays. Mais d'abord, je voudrais vous dire qu'après la guerre de 44 jours, il y a maintenant deux processus, deux formats de la phase après conflit, de la phase après guerre. Donc deux formats dans lesquels nous travaillons avec l'Arménie sur le sujet de la normalisation des relations entre les deux pays. D'abord, c'est le format de cette déclaration de 10 novembre 2020. C'est le format principal, parce que c'est le seul document qui a été signé par deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est cette déclaration-là. Et le deuxième format, c'est le format de Bruxelles, ou le format bruxellois. C'est-à-dire, nous travaillons avec l'Arménie, nous faisons des pourparlers, il y a dialogue entre les deux pays, sous le guide de la présidente de la Conseil européen, Charles Michel.
Charles Michel, le Belge.
Oui.
Charles Michel.
Donc, et par conséquent, nous considérons la France comme un élément essentiel du format de Bruxelles. Parce que la France, c'est une grande puissance diplomatique, économique de l'Union européenne. Et bien sûr, la France pourrait exercer une influence efficace sur le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La France peut jouer le rôle très important dans le renforcement des mesures de confiance. Et là, entre les deux capitales, entre les deux sociétés, azerbaïdjanaises et arméniennes. La France pourrait jouer le rôle important dans la reconstruction d'après-guerre dans notre région, avec les investissements, avec l'aide militaire, etc. Donc nous, comme l'Azerbaïdjan, nous sommes bien disposés pour un dialogue actif et coopération efficace avec Paris sur toutes les questions de la phase après-conflit. Je le répète encore une fois, Yannick, que nous considérons cette phase d'aujourd'hui, dans laquelle nous trouvons, c'est la phase après conflit, c'est une phase après guerre.
Parce ouais. que en vous France, êtes déjà dans cette phase, alors qu'en France, on est encore dans les médias dans la phase guerre.
Vous savez pourquoi je le dis donc toujours, je le répète souvent, parce que il y a ici en France. Parfois, dans les commentaires des experts et des politiques, cette thèse que cette déclaration de 10 novembre, c'est une déclaration de cesser le feu. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'agit d'une déclaration qui a mis la fin du conflit. Cette déclaration prévoit le retrait des forces d'occupation.
Un cesser le feu, ce n'est pas la fin du conflit. Un cessez-le-feu, c'est que le conflit continue. Donc c'est faux.
Oui,
c'est pas un
bravo,
c'est
parce
ce que vous dites.
J'ai bien compris. Cessez-le-feu, c'est un des éléments dans cette déclaration. Mais là, quand même, les autres éléments. C'est le retrait des forces d'occupation, établissement des liens économiques, déblocage des voies de transport, les mesures de confidence, le déminage, la reconstruction de cette région qui était libérée des forces armées arméniennes, et tout ça. Donc c'est plus large, c'est plus sérieux. C'est un document plus large, plus sérieux, et c'est plus loin que cesser le feu. C'est une vraie déclaration de la reconstruction après-guerre. Donc, c'est pour cette raison que je voudrais attirer votre attention sur ce fait qu'il s'agit de la phase après-conflit.
Alors, Monsieur l'ambassadeur Ahmad Mustafayev, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, j'aimerais vous interroger sur quelque chose que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup de gens pensent que ce conflit est religieux. Ils expliquent que l'Azerbaïdjan est un pays islamiste qui veut détruire l'Arménie, qui est un pays chrétien, destruction des croix, s'attaquer aux églises. Que répondez-vous à cela ?
Non, d'abord, je le répète que le conflit était résolu déjà. Donc,
oui. Mais, il paraît qu'il y a cette haine
même,
de l'Azerbaïdjan.
Même quand ce conflit était donc existait, donc depuis 1993 jusqu'à 2020, ce n'était pas le conflit religieux, parce que vous savez que l'Azerbaïdjan c'est un pays tolérant, c'est un pays dans lequel existent différentes communautés ethniques et religieuses. C'est le pays dans lequel les juifs, donc les orthodoxes, slaves, les protestantes, les musulmans sunnites et chiites, ils vivent dans l'harmonie, donc avec la coexistence pacifique, avec la coopération entre ces minorités. Donc pour nous, c'est une situation normale. Nous sommes un pays tolérant, ouvert, et c'est pas le conflit en fait religieux ou entre les religions. À mon avis, il y a le seul conflit qui existe aujourd'hui dans notre région et qui en fait déstabilise la région du Caucase du Sud, c'est le conflit de l'Arménie avec le droit international. Je le répète, c'est le seul conflit qui existe aujourd'hui, c'est le conflit de l'Arménie avec le droit international. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà proposé aux Arméniens de lancer donc ce dialogue avec l'Azerbaïdjan sur les principes de base. Nous avons proposé aux Arméniens les mêmes principes qui existent aujourd'hui entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, entre la France et les Pays-Bas. Donc les mêmes principes, c'est le respect réciproque de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, établissement des relations diplomatiques, coopération économique, culturelle et la vie normale entre les deux pays dans cette région. C'est ça notre position, c'est ça notre philosophie. Donc, et dès que l'Arménie donc, répond positivement à cette question, à cet appel de l'Azerbaïdjan, la vie normale donc, s'établira dans notre région.
Vie normale et respect de toutes les religions.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est le cas déjà en Azerbaïdjan, en fait, qui est un pays laïque, je le rappelle.
Je ne sais pas, si vous avez visité la capitale azerbaïdjanaise, peut-être oui. Vous avez vu que au centre-ville de la capitale azerbaïdjanaise, la ville de Bakou, il y a l'église arménienne.
Je l'ai vu, l'église arménienne au centre de Bakou, qui est en parfaite tranquillité, qui fonctionne. Oui. Il n'y a même pas de sécurité et les choses fonctionnent très normalement. Voilà.
Oui, et vous avez vu peut-être qu'il y a donc des catholiques, et des protestants, des chrétiens globalement qui...
Et j'ai vu plus de femmes en jupe à Bakou à Paris, ça.
Mais moi, vous savez, moi je me doute s'il y a vraiment en Arménie donc la communauté, la minorité musulmane qui peut fonctionner donc librement, tranquillement avec le mosquée, donc etc. Pour moi, c'est la question. Pour moi.
Réciproquement, vous voulez dire ouverte. Comme les chrétiens en Azerbaïdjan. Mais
pour moi, c'est une question ouverte.
Je voulais finir. Comment vous imaginez les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans 10 ans ou dans 20 ans, dans un monde idéal, dans un monde de paix? Est-ce que les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourront être, dans 10 ans ou dans 20 ans, des relations entre, j'allais dire, par presque deux pays vraiment amis, quoi?
Je suis sûr que cette période de turbulence, des hostilités, donc, va passer. Je suis sûr que relation normale, pacifique entre les deux pays, deux peuples arméniens et azerbaïdjanais, seront rétablies, donc normalisées, parce que nous sommes voisins dans cette région. Donc nous sommes depuis des siècles, donc depuis peut-être 2000 ans, donc nous sommes avec les Arméniens. Nous nous trouvons dans cette région. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option que de vivre ensemble en paix, en coopération, en harmonie. Et en ce qui concerne les Arméniens qui vivent, qui habitent aujourd'hui dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan, notre philosophie, c'est les faire intégrer dans l'espace économique, social, juridique de l'Azerbaïdjan. Nous les regardons et considérons comme les citoyens de l'Azerbaïdjan, donc avec les mêmes droits et avec les mêmes obligations comme les Azerbaïdjanais. Donc, égalité totale entre les Azerbaïdjanais, les Arméniens, entre toutes les minorités ethniques et religieuses dans notre pays. Donc, l'égalité devant la loi. C'est ça notre vision. Et je pense que cette situation sera rétablie donc, très, très, très prochainement. C'est ça mon avis.
Merci monsieur l'ambassadeur pour cet entretien exceptionnel, Rahman Mustafayev.
Merci à vous.
Vous êtes ambassadeur d'Azerbaïdjan en France et auprès du Saint-Siège, ne l'oublions pas. Merci monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup.